Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Le climat, le nucléaire iranien et la Corée du Nord, voilà les trois priorités de la diplomatie française pour l'Assemblée générale de l'ONU. Emmanuel Macron prendra la parole demain à New York après Donald Trump. Les explications d'Isabelle Labéry dans un instant. En Espagne, Madrid accentue la pression sur les indépendantistes catalans. À moins de 15 jours du référendum d'autodétermination en Catalogne, le pouvoir espagnol s'attaque aux médias accusés de faire la propagande d'une consultation électorale jugée illégale. L'ouragan Maria pourrait toucher dans les prochaines heures la Martinique et la Guadeloupe. La Martinique a été placée en alerte violette cyclonique. L'alerte est rouge en Guadeloupe. Nous ferons le point avec Grégoire Lecalot. Nicolas Hulot veut verdir le parc automobile français. Le ministre élargit au marché de l'occasion les primes pour l'achat d'une voiture moins polluante. Nous en parlerons avec notre invité, l'économiste Bernard Julien. L'Assemblée générale de l'ONU cette semaine à New York sera marquée par un double événement, l'entrée en scène de Donald Trump et celle d'Emmanuel Macron, tous deux fraîchement élus dans leurs pays respectifs. Le président américain a donné aujourd'hui un premier aperçu de ce qu'il pense des Nations Unies, une organisation bloquée par la bureaucratie et une mauvaise gestion qui entraverait son fonctionnement. Reste à savoir si Trump gardera ce ton offensif lors de son discours demain à la tribune. Quant à Emmanuel Macron, il va se concentré sur un certain nombre de dossiers qui opposent la France aux États-Unis, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dévoilé ce soir les priorités du chef de l'État. On retrouve à New York Isabelle Labéry.
Sauvegarder et appliquer l'accord sur le climat adopté en décembre dernier à Paris, c'est l'un des objectifs de la France, résumé par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères.
C'est sans précédent. Et progressivement, les ratifications aujourd'hui se confirment. Il y en a plus de 145 déjà.
Autant dire que la valse-hésitation de Donald Trump sur cet accord agace la diplomatie française.
Pour l'instant, aucun acte n'a été posé et peut espérer toujours le convaincre. Donc nous considérons que cet accord doit se mettre en œuvre. Il le sera.
Il y a un autre domaine dans lequel la communauté internationale veut empêcher les Américains de renverser la table, c'est le nucléaire iranien. La France rappellera tout l'intérêt de maintenir l'accord de 2015, un accord essentiel pour lutter contre la prolifération nucléaire. Enfin, sur la Corée du Nord, Paris défendra l'option diplomatique.
C'est la seule démarche possible. Faire pression par les sanctions de manière extrêmement forte et amener la Corée du Nord à la négociation.
En espérant que l'impétueux président américain ne brandisse pas demain, depuis la tribune de l'ONU, de nouvelles menaces d'intervention militaire.
Isabelle Labéry, envoyée spéciale à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, a retenu également cette déclaration de Jean-Yves Le Drian sur le référendum d'indépendance que veulent organiser les Kurdes irakiens dimanche prochain. Une initiative inopportune pour le chef de la diplomatie française. Jean-Yves Le Drian prône un dialogue politique entre le gouvernement de Bagdad et le Kurdistan irakien autonome. C'est aussi un référendum qui met à mal l'unité de l'Espagne. La consultation du 1er octobre prochain en Catalogne. Les nationalistes catalans ont promis de proclamer l'indépendance de leur région en cas de victoire du oui. Mais le pouvoir central à Madrid juge ce référendum illégal et il multiplie les pressions juridiques sur les maires catalans qui veulent organiser le vote. Une quarantaine d'entre eux sont convoqués chez les magistrats dans les prochains jours. Autre aspect de l'offensive anti-indépendantiste du gouvernement espagnol, les attaques contre les médias catalans accusés de propagande. Sébastien Berriot.
C'est désormais la liberté de la presse qui est touchée. Le gouvernement espagnol souhaite interdire toute forme de publicité sur le référendum, notamment la propagande officielle des autorités catalanes que certains journaux relaient. Une dizaine de rédactions proches des indépendantistes ont donc reçu ces derniers jours la visite des forces de l'ordre, venues signifier cette interdiction. Deux fonctionnaires de la Guardia Civile ont notamment tapé à la porte du journal El Punt Avui à Barcelone, Aleix Reynier, l'un des journalistes.
C'est incroyable que dans un état démocratique, ça se passe comme ça, quoi. C'est vraiment la surprise, parce que quand même, je rappelle qu'il y a une loi votée par le Parlement de la Catalogne en référence à tout ce qui touche le référendum. Donc c'est tout à fait légal de publier ces annonces et faire la campagne du référendum. C'est le gouvernement espagnol qui a choisi cette voie au lieu d'une négociation. Il a choisi la façon dure qui va très loin, j'insiste, sur l'atteinte aux libertés civiques. Quoi.
Quant aux maires de Catalogne qui soutiennent le référendum, ils ont commencé à recevoir des courriers de la justice. Première convoquée, la maire de Gérone, Marta Madrenas, doit se présenter mercredi à 11h devant le procureur pour expliquer pourquoi elle soutient un scrutin qui a été interdit par la justice.
Sébastien Berriot de France Bleu Roussillon, merci. Une dizaine de jours après Irma, un nouvel ouragan menace les Antilles et notamment les îles françaises. Maria est désormais classée en catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5. La Guadeloupe et surtout la Martinique sont a priori sur le passage de cet ouragan. La Martinique est d'ailleurs passée en alerte violette cyclonique, le plus haut niveau d'alerte pour ce type de phénomène. L'ouragan devrait frapper l'île cette nuit, mais d'ores et déjà les éléments commencent à se déchaîner sur place. Grégoire Le Callot.
Avec des vents qui soufflent jusqu'à 195 km/h, Maria s'apprête à longer la façade est de la Martinique. L'œil du cyclone passera à 50 km au large, mais toute l'île va en subir les effets, surtout la partie nord. Des images prises sur la plage du Lorrain montrent déjà une mer écumante. Certaines communes, comme le Carbet sur la côte ouest, demandent aux habitants d'évacuer les zones littorales pour se réfugier sur les hauteurs. Des vagues de 7 à 10 mètres risquent de déferler sur le rivage et les marées de l'ouragan pourraient provoquer une montée des eaux d'1,50 m à 2 m. Le préfet de la Martinique, Franck Robine, a prévenu les habitants que les pluies pourraient atteindre 250 à 300 mm et provoquer inondations et glissements de terrain. On reste chez soi, on se calfeutre et surtout on ne sort pas, demande-t-il. L'île est paralysée, écoles et entreprises sont bien entendu fermées, les rassemblements reportés, 1500 hommes sont en alerte sur l'île, 600 pompiers, 500 militaires et 400 policiers et gendarmes. Maria devrait poursuivre sa course vers la Guadeloupe qu'elle atteindra dans la nuit. L'ouragan devrait ensuite passer à 100 ou 150 km de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Grégoire Le Callot, en revanche, effectivement, les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, durement touchées par Irma, devraient donc cette fois-ci échapper aux ravages de l'ouragan Maria. On en sait un peu plus ce soir sur le fameux plan climat de Nicolas Hulot. Le ministre de la Transition écologique et solidaire a dévoilé ce matin dans le quotidien Libération quelques-unes des mesures phares de son plan. Il y a par exemple un coup de pouce de 3000 euros pour aider les ménages qui changent leur chaudière au fioul pour un équipement moins polluant. Il y a aussi une prime pour les travaux d'isolation au lieu du crédit d'impôt existant aujourd'hui. Il y a enfin ces aides financières pour inciter les automobilistes à remplacer leurs voitures polluantes. Les explications d'Isabelle Baudrier.
Jusqu'ici, la prime à la conversion, c'est le terme technique, était réservée aux familles à revenus modestes. À partir de l'an prochain, la prime de 500 à 1000 euros sera généralisée à tous les propriétaires de véhicules essence de plus de 20 ans ou diesel d'avant 2001. Autre nouveauté, cette prime pourra s'appliquer si vous achetez une voiture d'occasion récente et peu polluante. L'Automobile Club Lorrain se satisfait des mesures mais doute de l'efficacité du doublement de la prime à la casse pour les foyers non imposables. Son directeur, Philippe Thomardel.
Une bonne mesure, bien sûr. Tout ce qui peut avantager l'automobiliste ne peut être qu'une bonne mesure au niveau financier. Maintenant, pour remplacer un véhicule, c'est vrai que le revenu modeste a d'autres choses, à mon avis, parce qu'il ne paye pas d'impôts, que de racheter encore un autre véhicule. Celui qui a un véhicule qui a 12 ou 15 ans ne va pas forcément changer de véhicule parce qu'on lui donne une prime supplémentaire.
Objectif du ministre de l'écologie, 100 000 véhicules concernés par cette prime élargie en 2018. Nicolas Hulot compte sur les constructeurs automobiles et les vendeurs de véhicules d'occasion pour la promouvoir.
Isabelle Baudrier de France Bleu Lorraine, merci. Invité de ce journal, l'économiste Bernard Julien, spécialiste de l'industrie automobile. Bonsoir.
Bonsoir.
Bernard Julien, une prime à la conversion des véhicules accessible à tous, est-ce que c'est une bonne chose selon vous ?
C'est une approche qui est quand même relativement nouvelle, hein, puisqu'il s'agit de s'attaquer au parc, de tenter de le rajeunir, non pas en privilégiant l'acquisition de voitures neuves comme on l'a toujours fait jusqu'ici, mais en permettant aussi aux ménages les plus modestes dotés des véhicules les plus anciens d'accéder à des véhicules alternatifs qui nécessairement doivent être des véhicules d'occasion, parce que quand vous donnez 2000 euros à quelqu'un qui achète une voiture à 5, hein, eh bien ça ne lui permet pas d'aller chercher une voiture à 15 ou 18 000 euros, et c'est le prix aujourd'hui des véhicules neufs. Hein.
Ça, c'est l'intérêt majeur des mesures Hulot, c'est le fait d'étendre cette prime aux voitures d'occasion, c'est
oui,
important.
C'est aussi parce que ça dessine ce qu'on avait vu se dessiner à travers la loi sur la transition écologique, hein, qui était une politique des parcs et non plus seulement une politique des immatriculations. Hein, ça veut dire qu'au lieu de s'intéresser à un verdissement des véhicules qui sont mis en vente chaque année, on s'intéresse aux 35 ou 38 millions de véhicules qui circulent et on se demande, puisque c'est le parc qui pollue et non pas les quelques véhicules qu'on immatricule chaque année, on se demande comment le parc va pouvoir être davantage vert et comment est-ce que les gens vont pouvoir l'utiliser à des coûts raisonnables sans qu'on stigmatise d'une certaine manière les plus modestes comme étant incapables d'être propres comme peuvent l'être les plus riches et les plus âgés des ménages qui sont les seuls à s'équiper de véhicules neufs aujourd'hui.
Comment imaginer une voiture d'occasion qui soit propre? Quels sont finalement les critères pour que cette voiture d'occasion soit propre?
Alors il y a des critères qui avaient été définis dans le cadre de la certification Crit'Air, où on a des véhicules qui sont classifiés en fonction de leurs émissions. Donc c'est les standards que respectent les véhicules, qui ne sont pas tout à fait du même ordre selon qu'on soit sur des véhicules essence ou des véhicules diesel. Mais aujourd'hui, les ménages qui bénéficieront de cette prime à la conversion pourront acquérir des véhicules relativement anciens s'ils sont des véhicules essence, puisque les véhicules pourront être apparus ou avoir été immatriculés la première fois en 2006. Donc vous voyez qu'on va chercher des véhicules de 11 ans. Et puis sur le diesel, les exigences sont un peu plus grande, donc on demande à ce que les véhicules soient Euro 5 plus tôt. Dans ce cas-là, c'est des véhicules de 2011, mais 2011, ce sont quand même des véhicules qui ont 6-7 ans, donc on peut trouver ces véhicules-là aux alentours de 5-6 000 euros. Avec la prime à la conversion pour les plus modestes, ça descend à 3 000. Là, ça devient crédible, si vous voulez, d'une certaine manière.
Quand on parle de véhicules propres, on n'est donc pas forcément sur des voitures électriques.
Voilà, on n'est pas sur des voitures électriques, parce que quand on a essayé de pousser les gens détenteurs de véhicules très anciens à aller sur des véhicules électriques, on a touché les quelques très riches qui avaient des véhicules anciens, qui ont vécu des faits d'aubaine par ce biais-là, mais on n'a pas verdi le parc, puisque le cœur de la détention de véhicules anciens correspond aux ménages les plus contraints, surtout s'ils sont dans le monde peu dense, puisque très souvent, quand on est dans le monde peu dense et qu'on a peu d'argent, on doit quand même, pour peu qu'on travaille ou pour peu qu'on ait des enfants, avoir deux véhicules. Donc évidemment, plus on a besoin de voitures, moins bien on s'équipe. C'est l'espèce de loi qu'on connaissait, nous, qui observons ces affaires-là depuis très longtemps et qui sont enfin intégrées dans les politiques publiques.
Le véhicule électrique, ça reste un marché de niche?
Alors, aujourd'hui, il y a très peu de véhicules électriques en parc. Par conséquent, il y aura très peu de véhicules électriques d'occasion.
On est à combien, grosso modo?
Là, aujourd'hui, on immatricule à peu près 1% des véhicules en électrique. Donc, avant qu'il y ait un parc qui permette aux ménages les plus modestes de trouver chaussures à leurs pieds en électrique, il faudra attendre un certain nombre d'années. Dans la mesure où il y a urgence écologique, selon Nicolas Hulot, il est conséquent en considérant que, déjà, si des ménages détenteurs de véhicules de 15 ou 18 ans en diesel passaient sur des véhicules qui auraient 5-6 ans en diesel, on aurait, en termes de carbone, mais aussi en termes de NOx ou de particules, des émissions bien moindres et donc un air plus sain.
On peut imaginer à terme la part des véhicules électriques être plus importante que la part des véhicules à essence?
Oui, on peut l'imaginer. Alors, les spécialistes vous diront qu'il y a de multiples manières d'électrifier un véhicule. Il y aura donc de l'hybride, il y aura de l'hybride rechargeable, il y aura de l'électrique, et tout ceci fera un espèce de catalogue des motorisations qui permettra aux véhicules, selon leurs usages, de trouver la bonne motorisation. Mais évidemment, aujourd'hui, on le voit très bien en France, mais aussi en Grande-Bretagne, mais aussi en Chine, on a un appel à aller vers l'électrique que les constructeurs sont pratiquement obligés de respecter et qui va conduire à ce que ce ne soit plus l'épaisseur du trait, comme c'est le cas aujourd'hui, mais ce soit une proportion beaucoup plus significative des véhicules immatriculés chaque année.
Bernard Julien, est-ce que le diesel est appelé à disparaître à terme, sachant que le diesel va bientôt perdre son avantage fiscal?
Oui, le diesel est en train de dégringoler à toute vitesse. Alors, il ne disparaîtra pas complètement parce qu'il y a des véhicules qui sont dédiés à des très grandes distances, qui sont très peu sur Paris, etc., qui pourront continuer d'être diesel. Mais, très clairement, l'espèce de surdomination du diesel qui atteignait pendant certaines années jusqu'à 70% chez nous, c'est quelque chose qui est du passé et aujourd'hui il faut plutôt s'attendre à ce qui tourne autour d'un petit quart des immatriculations à 10 ans.
Bernard Julien, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Première manifestation de routiers contre la réforme du Code du Travail aujourd'hui. Plusieurs dizaines de chauffeurs ont manifesté à Paris devant le ministère du Travail à l'appel de la CFDT et de la CFTC. D'autres routiers ont mis en place des barrages filtrants en région. Les deux syndicats veulent que le transport routier sorte des ordonnances qui réforment le Code du Travail. À défaut, ils réclament une commission de suivi de la réforme qui aurait droit de veto pour le secteur. Le gouvernement réserve sa réponse. Bon, un mot de la météo demain. Un temps maussade et souvent pluvieux sur la plupart des régions. Seul le sud-est devrait bénéficier du soleil toute la journée. Température maximale 15 à 19 sur la moitié nord, 17 à 24 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia.